Radio Campus Lille, il est 19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 257e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Donc c'est la première émission de la saison 2023-2024 et exceptionnellement ce soir je suis tout seul, donc Pierre. Alexandre étant un septembriste, donc il est en vacances pour une bonne partie du mois. Alors, l'émission est sponsorisée par la Ventoline. Voilà, désolé, j'ai la voix complètement niquée. Donc je vais essayer quand même. Donc là, l'émission va faire beaucoup d'actualités pour couvrir un petit peu tout ce qui s'est passé dans les deux semaines écoulées. Et on va commencer par la session rigolote. On va parler de tout ce qui est légal et réglementaire, parce qu'on s'amuse à parler de tout ça. Pour le coup, il y a des bonnes nouvelles. On va en profiter. C'est pas si souvent. Donc tant mieux. Donc il y a deux choses qui ont bien avancé au niveau européen, c'est le DSA et le DMA, le Digital Market Act, DMA, et le Digital Services Act. Donc on va commencer par le DSA qui est entré en action. Donc le but du DSA, c'est de protéger les utilisateurs européens en ce qui concerne la vie privée, la transparence et la suppression de contenu dangereux ou illégal. C'est entré en vigueur, c'est bon, c'est acté. Et donc, les changements ont déjà commencé à arriver un peu partout. Cinq changements majeurs que vous pouvez observer, et je vous invite à vous renseigner pour les activer si vous utilisez les systèmes en question. Cinq changements déjà assez importants qu'on peut voir dès maintenant, c'est déjà la possibilité de désactiver les recommandations de vidéos par l'intelligence artificielle sur les différentes plateformes. Alors, tout le monde n'est pas concerné, hein, seules les grandes plateformes. Donc, c'est-à-dire tout le monde finalement, donc c'est Instagram, Facebook, TikTok, y a qui d'autre, je sais, Snapchat, il y en a plein qui sont de la même maison mère. Mais grosso modo, sur les réseaux sociaux, les recommandations par base d'intelligence artificielle doivent être désactivables. Ce qui servira énormément à protéger contre les bulles d'autoconfirmation, on va dire, qui pouvait arriver sur les réseaux sociaux où finalement, comme on ne vous suggérait que du contenu avec lequel vous étiez déjà d'accord, ça allait reconfirmer tous les biais que vous pouviez avoir et vous enfermer dans des opinions. C'est ce qui est probablement en partie responsable de la montée de certaines tendances haineuses et aussi d'une certaine popularité d'idées d'extrême droite. Autre avancée, là aussi assez intéressante dans ce combat-là, la possibilité de plus facilement signaler du contenu violent, haineux ou dangereux, tout simplement. Donc, que ce soit TikTok, Facebook et autres, ils ont été obligés de rajouter des informations. Contrepartie de ce point-là, vu qu'on peut plus facilement signaler du contenu qui doit être supprimé, on peut savoir désormais pourquoi du contenu a été supprimé. C'est quand une vidéo est supprimée sur une plateforme. TikTok par exemple, ouais, j'utilise pas TikTok, hein, je connais pas, mais là dans l'article que j'ai vu c'était des exemples à base de TikTok. TikTok va vous dire quelles décisions de modération ont abouti à la suppression de votre vidéo. Google a annoncé, oui, on va donner plus d'informations pardon, sur nos services et sur la façon dont on gère la modération. Donc que ce soit la recherche, les cartes, Google Shopping, le Play Store. Mais ils ont pas précisé plus ce qu'ils faisaient. Et un autre point également, alors lui, il y a un côté moins numérique, c'est la possibilité de signaler, l'obligation pour les plateformes de mettre en place un signalement pour les produits contrefaits. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un produit, une contrefaçon sur une plateforme comme Amazon ou Zalando, enfin si vous achetez un produit, vous vous rendez compte que, je sais pas, au lieu de baskets Nike, vous avez des baskets Nike. C'est bizarre. C'est une contrefaçon, hein, c'est la définition. Et du coup, vous signalez, la plateforme a l'obligation d'avoir un système de signalement. Et enfin, Une dernière bonne nouvelle, c'est que désormais, il sera interdit de cibler des personnes mineures avec des publicités. Et interdit d'avoir de la publicité ciblée envers des mineurs. Donc la deadline pour tous ces changements-là, ça a été à la fin du mois d'août, il me semble. Donc ça date d'il y a quelques semaines. On verra comment c'est suivi par les différentes plateformes. Mais ça reste, c'est extrêmement positif. Alors ça concerne pas tout le monde, malheureusement. Tout le monde n'est pas inclus là-dedans. Il y aura un certain temps de mise en place, donc je suppose qu'il va y avoir une forme de tolérance sur les premières erreurs ou les premiers éléments qui ne seront pas bien réglés. Je suppose qu'il y aura une forme d'acceptation de la part de l'Europe là-dessus au début, mais normalement, en tout cas d'un point de vue réglementaire, ça part vraiment, de notre point de vue en tout cas, ça part dans le bon sens. Et ce qui me fait marrer, c'est que avant le passage de cette loi et avant le passage du DMA, les plateformes étaient en train de dire « Ah non, si ça passe, on quitte le marché européen. » Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai pas entendu parler de Meta ou Facebook, enfin de Google, Facebook, Google ou autre qui quitterait le marché européen, finalement. C'était des menaces en l'air, voilà. Et donc, on continue avec la deuxième facette européenne, c'est le DMA, le Digital Market Act. Alors, lui, de mémoire, du point de vue du calendrier, on est seulement à la phase... Excusez-moi, la voix part complètement en miettes. On est à la phase de désignation de ce qu'ils appellent les contrôleurs d'accès avant l'obligation de mise en conformité qui est prévue pour mars 2024. Et aussi l'ouverture de nouvelles enquêtes de marché pour désigner éventuellement de nouveaux contrôleurs d'accès. Qu'est-ce qu'un contrôleur d'accès ? C'est une bonne question. Alors aujourd'hui, les contrôleurs d'accès qui ont été identifiés sont Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Facebook. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les actualités, Meta ça veut dire Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, et ils ont un marketplace en plus. ByteDance c'est TikTok. Et qu'est-ce que c'est un contrôleur d'accès ? Et en fait, c'est une entité, une entreprise, qui a le pouvoir, qui a un contrôle sur une plateforme considérée comme essentielle. Alors, c'est déterminé en fonction du nombre d'usagers européens, notamment. Et donc, il y a un ensemble de contraintes, des obligations, qui sont associées au fait d'avoir cette plateforme sur le marché européen. Et donc, en l'occurrence, il y a différents exemples qui ont déjà commencé à apparaître. Apple est cité dans la liste des plateformes en question. Donc Apple est cité pour trois plateformes, l'App Store, où c'est un rôle d'intermédiaire, les navigateurs web avec Safari sur mobile, et les systèmes d'exploitation avec iOS, le système mobile. Quelles contraintes vont venir pour eux ? C'est très simple. L'obligation d'ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire sur l'App Store, ils n'auront plus le monopole. En fait, l'App Store n'aura plus le monopole d'installation sur les iPhones en Europe. Donc vous pourrez installer les applications sans passer par la case Apple, sans que 30% de chaque paiement ne soit reversé à Apple en trésor de guerre. Vous pourrez installer un autre navigateur que Safari sur votre téléphone portable Apple, et en plus, il ne sera pas obligé de faire semblant de ne pas être un Safari alors que c'en est un. Parce qu'aujourd'hui, si vous installez Firefox, c'est une coquille Firefox avec au milieu de vrais morceaux d'affichage de page web comme Safari. Et c'est pareil pour tout. Donc Windows est cité dans la liste des plateformes essentielles, donc parce que Microsoft contrôle Windows et s'en sert pour pousser d'autres services à eux. Et donc, on a déjà commencé à voir les effets, puisque Microsoft a décidé, donc prochainement, dans Windows 11, pour les versions de Windows dans l'espace économique européen, attention, faut pas déconner, désormais, dans les applications intégrées, Windows respectera le choix du navigateur lorsque vous cliquez sur un lien, parce que jusqu'à maintenant, ils ont tendance à ne pas le respecter dans les applications intégrées et à tout ouvrir dans leur navigateur maison Edge. Ce qui est une pratique anticoncurrentielle notable. Microsoft nous avait habitués à ça il y a 20 ans, un peu moins de 20 ans, et c'est de retour. Et donc, c'est une bonne nouvelle aussi que ça parte. Alors, dans l'ensemble des plateformes, il y en a quand même pas mal. On verra au fil des mois ce qui se met en place et de quels effets c'est suivi, mais c'est vraiment des bonnes nouvelles que tout ça se fasse enfin contrôler et sanctionner. Et donc, je note hein, tout de même que Apple n'a pas quitté n'a pas quitté le marché européen. Pourtant, on leur a dit « Non, vous devez ouvrir l'App Store ». Ils ont dit « Mais non, on veut pas ». Voilà, c'est étonnant. Hein, encore une fois, je suis surpris. Donc, il y a des contestations qui sont possibles. Hein. Les entreprises peuvent contester leur rôle, peuvent contester le fait d'être une plateforme. Alors, Microsoft signale que leurs produits Bing, Edge et Microsoft Advertising n'ont pas de rôle majeur. Enfin, n'ont pas le rôle de plateforme essentielle et donc n'ont pas à être inclus dans le DMA. De même, pour la partie DSA, l'entreprise Zalando disait que oui, alors on est considéré en très grande plateforme, mais en fait, c'est juste une lecture de chiffres. On a répondu différemment aux questions, on a inclus plus de choses et moins de choses dans certaines catégories, et du coup, paf, on est tombé dedans. Donc ça, on verra dans les prochains mois comment ça évolue et quelles futures plateformes seront ajoutées. On va continuer toujours dans la partie réglementaire. En ce moment, c'est une grosse tendance hein, au cinéma, on aime bien faire au moins une trilogie. Si on ne fait pas des trilogies, c'est pas bien. Donc, on a déjà eu Shrems 1 et Shrems 2, pour ceux qui suivent l'émission depuis quelques années. Et bientôt, peut-être, on aura un arrêt Shrems 3. De quoi que ça cause tout ça, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup des services qu'on utilise sur Internet aujourd'hui sont hébergés par des entreprises américaines, ou sont gérés à minima par des entreprises américaines. Et donc, les données personnelles transitent, se promènent entre l'Europe et les États-Unis, et plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Et jusqu'à maintenant, c'était protégé par deux accords au niveau européen, enfin entre l'Europe et les États-Unis, c'était le Safe Harbor et le Privacy Shield. Et donc, ces deux accords ont été invalidés par la Cour de justice de l'Union européenne dans les arrêts dits Schrems 1 et Schrems 2. Et donc là, la Commission européenne a dit « On a un nouveau cadre qui est trop bien, toutes les garanties sont présentes, notamment pour limiter les accès de services renseignements américains, ça répond à toutes les préoccupations de la Cour de justice de l'Union européenne, les services américains devront respecter les exigences de la Cour de justice de l'Union européenne. » Moi, j'y crois pas, mais bon, on verra. Et du coup, il y a des systèmes de recours et tout, etc. Et en fait, l'ONG NOYP, None of Your Business, donc qui est à la base des arrêts Schrems 1 et Schrems 2, a dit, je cite, « Dans l'ensemble, le nouveau cadre transatlantique de protection des données est une copie du Privacy Shield de 2016 qui lui-même était une copie du Safe Harbor de 2000. Étant donné que cette approche a déjà échoué à deux reprises, il n'y avait pas de base juridique pour ce changement de cap, la seule logique d'un accord était politique. » Donc, en gros... ils estiment que les États-Unis ont fait pression et que du coup, c'est juste des astuces pour calmer les gens et ça change rien fondamentalement. Et d'ici 2 ans, la Cour de justice de l'Union européenne devrait casser à nouveau l'accord. À suivre. Donc on a encore un tout petit peu de réglementaire et de légal. Juste, c'est un petit sujet qu'on a cité régulièrement, la volonté, notamment en Angleterre, de casser le chiffrement de bout en bout. Et donc là, il y a quelques semaines, ils ont annoncé que, on le fait pas là pour l'instant. Mais il y a eu une petite clarification entre deux pour dire, alors, en fait, on le fait pas, mais on n'a pas oublié que c'était un objectif, en fait. On tient à ce que les gens le mettent en place. En fait, pour l'instant, apparemment, c'est juste un accord avec les entreprises où Google et Facebook ont dit techniquement, c'est pas faisable. Et du coup, les Anglais, ils ont dit bon, d'accord, mais il faudra le faire. Hein. Ils ont toujours pas compris le principe, en fait, parce que ça marche pas. Mais bon. Du coup, pour l'instant, l'accord tient juste à base de vous êtes gentil, vous avez dit que vous allez le faire. Hein. C'est-à-dire la loi existe toujours. Donc c'est pas très rassurant, je trouve. Un changement de gouvernement est assez vite arrivé. Enfin, avant-dernier sujet réglementaire, le CRA, Ouais, on en a eu beaucoup là au niveau européen ces derniers mois. Donc le Cyber Resilience Act, qui a déjà été évoqué sur cette antenne, qui vise à, comme son nom l'indique, améliorer la résilience cyber, c'est-à-dire améliorer la sécurité des différents produits à base de logiciels que nous utilisons, qu'il s'agisse d'ordinateurs, de téléphones, de matériel de l'informatique des objets, pardon, l'internet des objets, ce genre de choses. Il y a un débat en cours, et donc il y a eu plusieurs avis qui sont sortis parce que le conseil a arrêté a priori sa position en juillet, et là en septembre il y aura le dialogue entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil européen. Avant une adoption, du coup, normalement, début 2024. Et donc, il y a pas mal d'oppositions. Alors, pour ma part, j'ai un avis qui est un peu tranché là-dessus par rapport à, notamment, le Conseil national du logiciel libre. Bon, qui, clairement, quand je vois leur communiqué, c'est le Conseil national de l'open source, hein, pas du logiciel libre, mais bon, passons. Et, en gros, le problème, aujourd'hui, le problème dans la sécurité informatique, c'est que les entreprises sont irresponsables. C'est littéralement, c'est la définition, dans les licences, c'est toujours, si ça casse, c'est pas nous, c'est pas notre faute, vous pouvez pas nous attaquer. Et le principe, c'est de dire, non, vous avez une responsabilité sur la sécurité, vous avez l'obligation d'avoir des paramètres par défaut qui soient corrects, d'avoir des paramètres par défaut, enfin d'avoir par défaut des mises à jour automatiques, que... Enfin, il y a tout un ensemble de contraintes, et quand vous avez une faille de sécurité, vous devez la signaler. Quand un composant de votre application a une faille de sécurité, vous devez la corriger. Vous ne devez pas ouvrir un truc inutilement. Normal. C'est la base. C'est comme quand on demande à une entreprise de construire une maison, on lui oblige d'avoir la garantie décennale. Oui, c'est la base. Et le problème, c'est que c'est très difficile de cadrer ça correctement pour ne pas avoir un souci avec les développeurs amateurs, les hobbyistes, les plus petites entités qui développent juste un petit logiciel comme ça et qui n'ont pas forcément les reins assez solides. Et c'est là où, moi pour ma part, je suis en complet désaccord avec la position notamment du CNLL. Pour moi, à partir du moment où il y a une activité commerciale, il faut considérer que les revenus de cette activité commerciale doivent payer notamment la sécurité informatique. Et si ça revient du coup trop cher pour être rentable, c'est que votre prix doit augmenter. Je suis désolé, c'est aujourd'hui l'informatique est bradée, ou plutôt l'argent part pas dans les bonnes causes ni dans les bonnes poches, mais aujourd'hui on ne prend pas assez en compte ces problématiques-là, et justement je trouve ça extraordinaire que l'Europe s'attaque à ce point. Donc pour ma part... Étant donné qu'ils excluent toutes les activités strictement non commerciales de ce sujet, moi je ne vois aucun problème à ce qu'ils font là. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qui se passe si c'est un composant libre qui est repris par une entreprise dans un logiciel, ce composant libre a une faille de sécurité, en fait c'est l'entreprise qui a repris le composant libre qui est responsable de la mise à jour notamment de ce composant. Et on va tomber sur des trucs... il va y avoir des trucs assez intéressants autour de tout ça. Bref, ce sujet-là va nous tenir probablement une bonne partie du premier trimestre, parce qu'il y aura sûrement des évolutions, des documents qui vont arriver entre deux. Et je voudrais juste pointer sur ceux qui se renseignent sur le sujet, juste vérifier la source. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de gens se basent uniquement sur des communiqués de GitHub. GitHub qui a un intérêt à ce que la loi en question soit la plus cool possible pour les entreprises. GitHub, c'est pas nos amis. GitHub n'est pas l'ami du logiciel libre. GitHub, c'est une entreprise à but clairement lucratif. Leur but, c'est que on ne touche à rien qui puisse... leur but, c'est de protéger leur Grisby. Donc, s'il y a une loi qui peut imposer aux gens de faire attention à ce qu'ils font, c'est pas bon pour eux. Soit dit en passant. Accessoirement aussi, c'est des contraintes pour eux, notamment dans le CRA. Il y a des contraintes spécifiques pour les acteurs comme GitHub. À suivre, toujours. Et donc, une dernière pour la route, on va parler juste du blocage des sites pornographiques avec le contrôle d'âge. Donc, pendant l'été, voilà, le tribunal judiciaire de Paris a différé sa décision dans l'attente d'un examen par le Conseil d'État. Et au niveau australien, l'Australie a abandonné l'idée, parce que Donc je cite, il ressort clairement de la feuille de route à l'heure actuelle que chaque type de technologie de vérification de l'âge s'accompagne de ses propres problèmes de confidentialité, de sécurité et d'efficacité ou de mise en œuvre. En gros, eh ben aujourd'hui on peut pas faire. Donc on va pas faire pour le moment, on reviendra plus tard le jour où il y aura une solution viable. La France n'a pas encore compris ça. Pour le moment, c'est on le fait et puis on verra plus tard si on le fait. Et voilà, c'est tout. C'était la première partie des brèves. Je vais aller prendre ma ventoline et je vous laisse avec... Alors, la playlist a été composée par LibreOffice Calc et la fonction Aléa. Donc, vous plaindrez auprès de la puce de l'ordinateur du studio pour la sélection musicale. Donc, tout de suite, on va écouter Peyote de Kinématique sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. À tout de suite. C'était Peyote de Kinématique, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. C'est les codes nous et c'est la deuxième partie des brèves. Et on va enchaîner avec des brèves logicielles. Alors, bon, c'était l'été, voilà, il y a eu plein de sorties. Et dans le lot, nous avons LibreOffice 7,6 qui est sorti. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des améliorations, il y en a un petit peu partout, voilà. Meilleure compatibilité, amélioration de l'export de PDF, amélioration voilà, un peu partout, à droite, à gauche. La seule chose que je voudrais noter là-dedans, c'est que c'est la dernière version de LibreOffice qui suit cette numérotation, parce que bah, ils se sont dit, en fait, on passe notre temps finalement maintenant, on sort des versions assez souvent, le numéro, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que voilà, le premier chiffre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le changer. Et donc, désormais, on change la numérotation et ce sera basée sur l'année. Ils sortent une version tous les 6 mois, et donc la prochaine version sera la 24.2 qui sortira en février. Donc ne soyez pas surpris pour l'annonce dans 6 mois. D'autres logiciels, donc un autre logiciel en productivité qui est sorti, il y a Inkscape 1.3. Alors lui, ça faisait pas mal de temps, il me semble qu'il n'y avait pas une nouvelle version. Donc c'est un outil de dessin vectoriel qui, pour ceux qui maîtrisent plutôt les outils privateurs d'Adobe, donc c'est un peu dans le style d'Adobe Illustrator. Donc c'est un logiciel pour créer des dessins vectoriels au format SVG principalement, donc le vectoriel. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le principe, c'est que au lieu de représenter un trait en disant ben c'est un pixel là et là, et ça fait un trait, là ça dit c'est un trait de là à là, et du coup on peut zoomer, dézoomer l'image sans se retrouver avec un phénomène de pixelisation extrême et sans perdre d'éléments finalement. Bon après, évidemment si vous réduisez à fond, là il va y avoir des décisions à prendre, le logiciel va pas, enfin pour le rendu, les décisions ne seront pas forcément les bonnes. Vous aurez peut-être un peu de travail quand même, mais voilà, pour faire des logos, pour faire des petits dessins, ce genre de choses, c'est vraiment un très bon outil. Enfin, autre logiciel grand public qui est sorti, la version 115 de Thunderbird est sortie en juillet. Alors je ne sais plus si je l'avais annoncé un peu en avance ou pas, je ne sais plus parce que je suis fatigué. Mais donc c'est une mise à jour majeure qui a changé énormément de choses. N'hésitez pas à jeter un œil et à l'essayer, surtout pour ceux qui passent leur temps à lire leurs mails dans des webmails, je ne peux que vous encourager à essayer un vrai lecteur de mail juste pour voir l'effet que ça fait. Parce qu'on est quand même plus sur la même chose qu'un Outlook Express dans les années 90, pour ceux qui ont connu ça. Et on est un bon cran au-dessus quand même, donc puis là, la nouvelle version de Thunderbird vraiment a l'air fort sympathique. Autre nouvelle logiciel, maintenant on va partir sur un petit peu plus abstrait ou technique, donc le projet Cerveau, alors j'en ai déjà parlé à quelques reprises, c'est un nouveau moteur d'affichage de page web, c'est pas fréquent, il n'y en a pas tant que ça, hein. Aujourd'hui il ne reste plus que le moteur de Chrome, le moteur de Safari, qui ont un gros ancêtre commun, et le moteur de Firefox, il n'y a que ces deux ennemis là qui existent vraiment sur le marché aujourd'hui. Et donc Mozilla, il y a une dizaine d'années, avait lancé le projet Cerveau, qui est un moteur de navigateur web écrit dans un langage de programmation qui protège contre moult failles de sécurité et problèmes. Ils n'ont plus les ressources pour le développer, ils l'ont plus ou moins abandonné pendant quelques années, et maintenant le projet Cerveau a été repris par une entreprise et a rejoint la Linux Foundation Europe dans le but de développer ce moteur alternatif. Le but, ce ne sera pas forcément de cibler tous les ordinateurs de tout le monde, mais de fournir des composants efficaces qui ne prennent pas toutes les ressources de la machine pour un certain nombre d'usages. Donc à suivre, toujours intéressant en tout cas de voir de la concurrence là-dessus. On avait parlé aussi alors de Red Hat Enterprise Linux il y a quelques mois. Ça, je suis certain d'en avoir parlé parce que le sujet est assez important et compliqué. Donc Red Hat Enterprise Linux, pour ceux qui ne connaissent pas, Red Hat est l'une des grandes distributions commerciales Linux historiques. Red Hat Enterprise Linux, RHEL, c'est la référence, on va dire, pour les distributions commerciales en entreprise. Le principe, c'est que vous l'installez aujourd'hui, dans 10 ans, vous avez encore le support par Red Hat et vous avez encore les mises à jour de sécurité, etc. Vous avez quelque chose qui marche, qui est garanti. Le problème, c'est que c'est commercial, c'est payant. Et donc, il y a eu un ensemble de projets qui ont existé. Le plus ancien, ça a été CentOS, qui reprenait le code source de Red Hat, qui recompilait et qui disait, voilà, donc c'est un clone, c'est la même chose, mais vous n'avez pas à payer de licence. Par contre, vous n'avez pas le support de Red Hat, mais vous n'avez pas à payer, auprès de Red Hat. Le problème, c'est que Red Hat, il commençait à faire un peu la gueule, parce que dans le lot, il y en avait quand même plusieurs qui abusaient un peu de la situation. Donc là, ils ont récemment fermé, alors je ne sais même plus ce qu'ils ont fini par fermer récemment encore, mais grosso modo, ils restreignent de plus en plus l'accès pour interdire ils ont rendu le code source plus difficile d'accès. Ce qui fait que les cloneurs ne peuvent plus le faire du tout aussi facilement. Ils ne peuvent plus cloner aussi facilement. Et donc, alors il y en a plein qui ont gueulé. Il y a Oracle qui dit nous, notre distribution Unbreakable Linux, c'est une mauvaise idée parce que du coup, on ne veut plus garantir la compatibilité avec Red Hat. Alors, si Red Hat fait un truc qui emmerde Oracle, c'est une bonne chose. globalement. Hein. Je ne vais pas m'en plaindre. De toute façon, ça, là, pour le coup, ce sont deux entreprises qui se plaignent l'une de l'autre. Ça ne nous concerne pas trop, mais voilà. Il y a d'autres concurrents, d'autres cloneurs, donc notamment Alma Linux. Alma Linux, ils ont dit, bon, ben, du coup, on ne garantira plus la compatibilité intégrale avec RHEL. On va viser une compatibilité d'application, mais on ne peut pas faire mieux. Alors, jusqu'à maintenant, ils étaient compatibles bug pour bug, quoi, c'était un clone. Donc ça va être intéressant de voir, parce que comment vous voulez faire un clone qui ne soit pas un clone. La définition, elle devient un peu floue. Hein. Alors, il y a Suse qui s'en est mêlé, on reparlera de Suse tout à l'heure, qui a annoncé la création d'une distribution compatible RHEL. Alors, on verra ce que ça donne. Et pour finir autour de ce sujet-là, je voudrais reprendre un élément. Je vous invite à lire son billet parce que c'est assez long et c'est bien expliqué. Un billet qui a été écrit par Mad Dog, John Mad Dog Hall, je sais, mon anglais est rouillé, je suis fatigué. Alors, qui que c'est ce monsieur-là ? C'est un vieux briscard du monde du logiciel libre. Vraiment, c'est un vieux de la vieille, ça fait des années. Il est dans le monde de l'open source et du libre depuis avant que ça s'appelle open source ou libre. Il est là depuis avant que le projet GNU existe. C'est vraiment ce monsieur, ça fait 50 ans qu'il est dans la communauté. Et en gros, ben son avis, c'est que mais Red Hat n'a rien fait de mal. Ils ont décidé que leur code source n'allait être disponible que pour ceux qui ont un contrat avec eux. C'est légal et c'est la licence GPL. C'est tout. C'est la licence le permet, ils le font, tant mieux pour eux. Et ils rappellent que ben Red Hat, ce que vend Red Hat, c'est des investissements colossaux pour fournir derrière le support, pour fournir derrière les garanties, toute la documentation, tout le travail de Red Hat, il est énorme. Et aujourd'hui, ben justement, il y a un problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte et ne veulent pas payer le prix de ce travail. C'est aussi pour ça que certains se tournent vers des clones. C'est un petit peu le problème. Et donc, ben du point de vue de John Maddock, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que ben il y a tout un travail qui doit être rémunéré, qui doit exister et qui n'est pas fait s'il n'y a pas ce genre de solution. Et le fait de passer ça, comment dire, le fait de passer l'accès au code source ben, derrière le contrat, ce n'est pas un problème et c'est normal, ce n'est pas c'est la licence le permet, point. Donc c'est une vue assez intéressante, je vous invite à chercher, à aller lire les articles là-dessus si vous intéressez, du coup, le côté politique du logiciel libre. Maintenant, voilà, on verra ce que ça donnera sur toutes ces histoires-là. Et j'avais dit qu'on en parlait un petit peu, on va parler juste de Suse, et moi surtout, il y a un aspect qui m'inquiète beaucoup là-dedans. Alors, le Suse, c'est une autre grande distribution Linux, hein, qui est allemande à la base. Et donc, Suse a été... les termes français, je ne les connais plus là-dessus, sur les échanges boursiers. Suse a commencé à être coté en bourse en 2021 et le plus gros investisseur de Suse a décidé de sortir Suse de la bourse pour que ça redevienne une entreprise qui n'est pas soumise aux règles des marchés boursiers. On s'en fout, c'est juste un élément, mais moi par contre un autre élément qui m'inquiète beaucoup plus autour d'OpenSUSE. Alors OpenSUSE a plusieurs distributions. Donc ils ont la distribution SLE qui est SUSE Linux Enterprise, donc la distribution concurrente de RHEL, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est le même genre de système mais c'est fait par OpenSUSE. Ils ont OpenSUSE Leap qui est un hybride entre ça et des paquets mis à jour par-dessus. Et ils ont aussi Tumbleweed, qui est une distribution qui bouge en permanence. Mais là, Suse a décidé de faire un ensemble de changements pour travailler vers un... Alors, c'est assez long à expliquer, hein, mais grosso modo, il y aurait une base qui sortirait des versions ponctuellement, une base avec en rolling release, donc en sortie en continu, qui est un peu l'équivalent de Tumbleweed. Mais par contre, Par contre, il y a un trou, c'est que la partie desktop, alors OpenSUSE, LIP, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est centré sur les environnements de bureau. C'est une distribution qui est parfaite pour de la bureautique. Les produits, alors ALP, donc les... j'ai déjà oublié le nom. Les Adaptable Linux Platform, il n'y a rien qui est montré là-dedans, comme quoi ils ont l'intention de viser les machines de bureau avec ça. Et donc, il y a une très grosse inquiétude sur qu'est-ce que ça va devenir. Et pour le coup, je suis assez d'accord, ça m'inquiète, parce que Red Hat a abandonné le marché du bureau. À ma connaissance, les cloneurs, enfin Oracle et autres, ne sont pas sur le marché du PC de bureau pour Linux. Si OpenSUSE l'abandonne aussi, j'avoue, je suis franchement inquiet. Il ne restera que du communautaire. Alors le communautaire, ça peut marcher, mais pour certains besoins en entreprise notamment, ça n'est pas du tout suffisant. Donc je suis relativement inquiet d'avoir ces annonces-là du côté de SUSE. Enfin, une dernière nouvelle logicielle. Alors, il y a deux lectures, celle-là. Je vais vous la faire. Il y a eu une annonce de Google. Ils ont annoncé que l'ART13, donc Android Runtime, je ne sais plus quelle lettre, l'ART13 est disponible et ça permet d'accélérer de 30% le démarrage des applications. Et donc, l'ART est la même pour tous les appareils et c'est diffusé sur les appareils à travers les mises à jour Google Play. Alors, moi, quand j'ai vu le titre, ouais, Google améliore de 30% le lancement des applications. Je dis bien, alors moi je suis pas concerné, mais tant mieux, parce que globalement, si ça va plus vite de 30%, ça veut dire que la machine travaille moins pendant 30% de temps de gagner par la machine. C'est un gain énergétique important. Mais la fin de la phrase m'a beaucoup gêné. Comment ça, diffusion de la mise à jour par Google Play? Et là, on retombe. C'est un truc, alors c'était passé complètement sous le radar pour moi, j'avais pas fait gaffe, en fait j'avais pas compris ce que ça impliquait, je pense qu'on l'avait annoncé dans l'émission lorsque ça a été sorti, quand Google l'a introduit, alors c'était il y a peut-être 4-5 ans je crois, on a dû en parler mais j'avais pas compris l'impact. Et aujourd'hui je le vois, je suis pas inquiet, mais je l'ai mauvaise. Qu'est-ce que c'est du coup que ce... projet, en fait, c'est le projet Mainline. Le but du projet Mainline, c'était de dire, écoutez, les mises à jour d'Android, désormais, c'est Bibi qui les fait, et on découpe Android en plus petits morceaux qui peuvent être mis à jour indépendamment de la base du système. Il était temps, puisque la base du système, il n'y a que les fabricants des téléphones qui peuvent la mettre à jour, et spoiler, non, ils ne le font pas, voilà, ils s'en foutent, ils ont sorti un produit, ils ne vont pas le mettre à jour, ils vont juste engranger le pognon. D'où le besoin de trucs comme le Cyber Resilience Act, dont on parlait au début de l'émission. Et donc, Google a dit, voilà, désormais, il y a... Alors, ils ont commencé avec 12 modules qui sont au sein du projet Mainline, et désormais, il y en a 37. Et le truc qui, moi, m'inquiète beaucoup là-dedans, parce que c'est nécessaire, j'insiste, c'est nécessaire de mettre à jour Android comme ça. Ce qui, moi, me gêne beaucoup, c'est de savoir que, finalement, les mises à jour sont diffusées par le Play Store. Et là d'un coup, il y a un truc qui va pas. Parce que, déjà, le Play Store, ça veut dire que les mises à jour en question, c'est des machins propriétaires, hein, c'est pas de la mise à jour libre du tout. On sait pas... de tout ce que j'ai cherché, aujourd'hui, on ne peut pas avoir le code source derrière les mises à jour Android comme ça. Ça veut dire aussi que les téléphones qui sont dégooglisés, ils n'y ont pas accès. Donc si vous avez un téléphone Android sans Google, puisque ça existe, vous n'avez pas accès à certaines de ces mises à jour. Vous devez attendre que ces mises à jour apparaissent dans le canal Android officiel pour y avoir accès, si elles y apparaissent. Donc, clairement, ce mouvement-là de la part de Google, en fait, c'est, je sais pas si c'est au prétexte de la mise à jour ou si c'est juste parce que c'est plus facile comme ça, mais je trouve que c'est franchement, c'est au prétexte de pouvoir faire des mises à jour, ils ont verrouillé encore plus Android et ils l'ont encore plus fermé pour que, bah, voilà, Android, c'est Google, et si t'as pas, si un Android sans Google, ça va de moins en moins bien marcher. Puisque ça revient à ça. Et donc, bah, je suis assez... Alors, moi, je n'utilise pas Android, donc pour ma part, je ne suis pas spécialement inquiet, mais je pense que c'est encore un très mauvais signe pour tout utilisateur d'Android qui s'inquiète de sa vie privée, puisque les parties chargées par Google, elle n'est pas franchement la plus respectueuse de la vie privée. Hein, ça intègre tous les services Google qui ne sont pas du tout là pour vous vendre de la publicité. Et ça, il y a plein de raisons de ne pas vouloir Google sur son téléphone, mais là, il y a un problème, c'est quand Google devient nécessaire pour que le téléphone marche bien. Et là, ça va devenir assez rigolo pour la suite. À propos de suite, on va se faire un deuxième morceau de musique avant que ma voix ne reparte. On va écouter Détroit de Great White Buffalo, j'arriverai à le dire. Toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie des brèves. A tout de suite. C'était Détroit de Great White Buffalo, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com. Vous écoutez l'écho des gnous et c'est la dernière partie des actualités. On va parler un peu internet et vie privée pour commencer. Tout d'abord, donc toujours les nouvelles de l'été, hein, on va commencer par notre ami de tous les jours Google. Alors Google a introduit une nouvelle fonctionnalité. Nouvelle fonctionnalité dans Google Chrome, la Privacy Sandbox, le bac à sable de vie privée. J'essaye de traduire comme je peux, hein. On ne simplifie pas la vie, mec. Et donc, qu'est-ce que la Privacy Sandbox ? C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Et donc, ben, le nom, on va décomposer un peu le nom. Dans le monde de l'informatique, c'est quoi un bac à sable ? C'est quoi une sandbox ? Et donc, la sandbox, c'est un principe de base qui est présent partout, qui était déjà présent dans les années 90 dans les pages web lorsque vous utilisez une applet Java, qui est présent aujourd'hui sur n'importe quelle page web où vous avez des scripts, du JavaScript, du code JavaScript qui va tourner. Il est mis dans une sandbox, il est dans un bac à sable isolé, il ne peut pas venir péter votre machine, il ne peut pas prendre le contrôle, il ne peut pas venir chercher vos données, ceci, cela. Une sandbox, c'est positif, une sandbox, c'est pour la sécurité. Voilà, en très court. C'est isolation. Et du coup, Privacy Sandbox. Quand on lit le nom, du coup, bac à sable de vie privée, on se dit, bah ouais, ça doit être bien, c'est quelque chose pour protéger, isoler les éléments de vie privée dans un cadre et tout, c'est bien, c'est un beau nom. Mais quand c'est fait par Google, du coup, je pense que la personne qui a eu l'idée de ce nom venait de se faire un trip et de se relire 1984. J'ai pas de meilleure explication pour ce nom-là. En gros, alors, c'est la troisième fois hein, qu'ils le sortent. Enfin, là, cette fois-ci, c'est vraiment en place. Ça a été annoncé d'abord sous le nom Flock. Ensuite, ça a été renommé Topics API. Et maintenant, ça s'appelle Privacy Sandbox. Et maintenant, c'est en place. C'est bon, ils l'ont vraiment mis dedans. Qu'est-ce que c'est, cette Privacy Sandbox, du coup ? Eh bien, c'est très simple. Le but, c'est de faire que les sites web, les trackers publicitaires, ne vous traquent plus, justement. Quand on dit ça, c'est une bonne nouvelle. C'est magnifique. Maintenant, la petite astérisque, c'est que, en fait, c'est à la place, c'est votre navigateur qui va vous pister. Et donc, là, sur les nouvelles versions de Chrome, Google Chrome va vous pister, va établir de lui-même le profil selon le type de contenu que vous visitez. Et au lieu de laisser les entreprises de publicité vous tracer à travers des partenariats précis, à travers toutes leurs méthodes habituelles, elles n'auront plus le droit de le faire comme ça. C'est Google Chrome qui va leur dire, alors, il y a une publicité à servir pour mon utilisateur là. Alors, il s'intéresse au tuning pour voiture et il s'intéresse à, on donne un ensemble de sujets. Débrouillez-vous, trouvez-lui de la pub. En fait, le travail pour les publicitaires, il est pré-mâché, quoi, du coup. C'est encore mieux. Bien entendu, ça veut dire aussi qu'il y a plus de contrôle de Google sur les pubs. Google, c'est pas comme si leur revenu, c'était que la pub. Si vous inquiétez pour votre vie privée, désinstallez Chrome. N'utilisez pas ce navigateur, quoi. J'ai pas d'autres mots, là. Chrome a une base libre, Chromium, certes. Mais juste ça, c'est pas possible. C'est dégueulasse. En plus, avoir nommé ça comme ça, c'est horrible. Ils ont fait un grand lancement, alors en plus bien planqué et tout. C'est en place et c'est la plupart des utilisateurs de Chrome l'ont dans leur navigateur. Je veux dire, c'est pas ça va arriver dans deux semaines. Non, c'est en place. Voilà. C'est fait. Autre nouvelle de la part de Google et toujours autour de Chrome. Hein. Google a toujours aimé l'internet ouvert, évidemment. Et donc, ils ont décidé là de pousser. Alors, encore des acronymes Donc, c'est là le Web Environment Integrity qu'ils ont décidé de pousser cet été. Alors, je ne sais plus si on en avait parlé aussi. Et tout simplement, c'est le retour des DRM dans les navigateurs web. Donc, le but, c'est de pouvoir prouver au site web. Enfin, c'est que le navigateur puisse prouver au site web que c'est un navigateur qui n'a pas été altéré, sur une machine qui n'a pas altéré, tout est tamponné sur toute la chaîne, et du coup, c'est bon, on a le feu vert, vous pouvez envoyer du contenu HD ou 4K. Ça revient à ça, hein. C'est comme ça que c'est utilisé aujourd'hui sur les Netflix notamment. Et donc, ils souhaitent que ce soit mis en place dans les navigateurs web. Voilà. C'est-à-dire que le web, si c'était en place, le web ne serait plus ouvert, puisque ce serait plus n'importe quelle personne capable de faire un navigateur web. J'avoue, c'est quand même un bon critère. mais ce serait plus n'importe qui peut techniquement accéder au contenu, c'est n'importe qui a le seul logiciel accepté. Et du coup, quelqu'un qui veut... c'est la fin de l'expérimentation, de l'innovation, puisque aujourd'hui, sans le web, on ne fait rien. Mais du coup, ça veut dire que des plateformes alternatives, des OS comme Haiku ou autres, on en reparlera cette saison à nouveau, je pense, ils n'auront plus accès à toute une partie du web juste parce que Google, notamment, a poussé pour des DRM. On va parler de deux autres nouvelles en alternative privée. Boursorama, la banque en ligne, juste, elle a été mise en demeure pour un truc. Alors, je pensais pas que c'était possible, donc juste une piqûre de rappel. Quand un site vous demande, et même si c'est votre banque, quand un site vous demande vos identifiants et les mots de passe des impôts, vous les donnez pas, vous les dénoncez à la CNIL. Hein, voilà, donc c'est ce qui s'est passé a priori. La CNIL a été mise au courant que, tiens, c'est marrant, Boursorama demande les identifiants et les mots de passe. Donc là, ils trouvent que c'était démesuré. Et donc la CNIL a mis en demeure la Boursorama de se mettre en conformité avec le RGPD. Ils ont 2 mois pour le faire. Il était temps. Mais du coup, on verra ce que ça va donner. Hein, mais d'un point de vue sécurité, enfin, c'est critique. Et ne faites jamais ça. Ne donnez jamais des identifiants en ligne. Il n'y a aucune justification. Ne faites pas ça. Jamais. Et une dernière... En Internet, la France, cocorico, la France est leader mondial avec la proposition de loi, la SREN, qui est la plus considérée comme la plus forte en termes de censure d'Internet, avec la volonté d'imposer aux navigateurs web de filtrer les sites web sur la base d'une liste fournie par le gouvernement. On en a déjà parlé, c'est toujours en route. Là, il y a une pétition du côté de la fondation Mozilla. N'hésitez pas à aller la signer, à vous renseigner, à dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Et on reparlera de ça dans quelques instants lors d'une très très courte dégeekisation un peu spéciale. Je suis tout seul et j'ai la voix un peu cassée, donc je vais pas faire très très long. Juste, on ne les fait pas souvent, mais voilà, il y en a eu 2 qui sont partis cet été, donc je tiens à en parler, parce que c'est des gens quand même importants du monde du logiciel libre ou de la bidouille informatique. Donc cet été, on a eu le décès de Kevin Mitnick et de Bram Molnar. Alors ces noms ne parlent pas à grand monde. Kevin Mitnick est un hacker qui a... il a été connu notamment parce qu'il a réalisé des... Il a utilisé des techniques qui n'étaient pas très connues à l'époque pour pirater des machines en live ou ce genre de choses. Et donc, il est très important parce que notamment, il a popularisé les techniques d'ingénierie sociale qui visent non plus à utiliser des failles techniques, mais des failles humaines. C'est quelqu'un de très important, du coup, dans le monde de l'informatique, libre ou non. Et le décès de Bram Molnar, alors lui c'était le créateur de l'éditeur de texte Vim, et là je tiens juste à insister sur une chose, c'est que ce monsieur a été l'inventeur, alors à ma connaissance c'est l'un des premiers logiciels, c'est même l'un des seuls logiciels, quand vous le lancez, il vous dit, si vous voulez donner de l'argent, donnez à cette association-là, donnez à ses œuvres caritatives. Et donc... Ben voilà, c'est Vim, plutôt que de dire ben, versez-moi de l'argent, c'est aider les enfants pauvres d'Ouganda. Et une partie de son temps, il le passait pour gérer une fondation caritative qui aidait les enfants en Ouganda. Donc il est décédé. Voilà, ces 2 personnes sont décédées cet été, et je pensais important d'en parler plutôt que de. Ben voilà, parce que ce ne sont pas que des inconnus. On va faire un peu plus joyeux pour la fin, on va se faire juste une mini dégeekisation, parce que moi ça me chiffonne beaucoup, c'est notamment le projet de loi SREN et certaines discussions autour du CRA, donc le Cyber Resilience Act. Je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien comprises, bien exprimées. Et je voudrais revenir en fait sur c'est quoi construire un logiciel aujourd'hui et hier. Même plus hier qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui sont beaucoup moins utilisées. Notamment quand je vois le projet de loi SREN, le but c'est d'imposer aux navigateurs web de bloquer les contenus sur la base d'une liste du gouvernement. Et là, il y a un problème, c'est que cette proposition est fondamentalement soit idiote, soit réellement infaisable techniquement. Parce que C'est quoi un navigateur web? C'est quoi? Est-ce que le navigateur web, c'est Firefox, c'est Chrome, c'est Edge, c'est Safari? Ou est-ce que le navigateur web, c'est Blink, Gecko, WebKit? Et du coup, bon, déjà, si le navigateur web, du coup, est-ce que c'est l'emballage ou est-ce que c'est le moteur? Si c'est le moteur, et ben là, on tombe sur... Ben, aujourd'hui, construire un logiciel, c'est rarement tout développé. Et même, moi, j'étais ado, j'étais au collège, j'étais au lycée. Quand on nous donnait des machines avec des restrictions, je prenais, à l'époque, je prenais Word, je faisais le raccourci clavier pour tomber sur l'éditeur de macro, et de là, je pouvais créer un navigateur web de toutes pièces en quelques instants. Juste, je pouvais mettre une barre d'adresse, un afficheur de page web, et puis voilà, j'avais un navigateur web lancé depuis Word. On pouvait vraiment faire plein de trucs comme ça, juste parce que à l'époque, c'était encore plus facile, c'était plus facile que maintenant, mais à l'époque comme aujourd'hui, construire un logiciel, ce n'est pas créer un truc de toutes pièces, c'est rassembler, c'est construire un puzzle avec un ensemble de pièces. Un logiciel, c'est pas plus compliqué que du Lego, hein, clairement à faire. Et du coup, bah, quand on nous dit oui, il faut que les éditeurs de navigateurs web censurent, est-ce que vous pensez vraiment que du coup, quand le navigateur web il est juste à deux clics? Enfin, il faut quelques clics pour créer un navigateur web, parce que vraiment, on est à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez arriver à quelque chose? Ou alors, ça doit être au moteur de se censurer, mais dans ce cas, il y a un problème, parce que les moteurs ne sont pas utilisés que pour afficher les pages web, et vous allez peut-être avoir des problèmes techniques à régler. Il y a des moteurs de pages web qui affichent des pages web sans jamais être connectés à Internet, pour certaines machines spécifiques. Il y a déjà tout un problème là-dessus. Et aussi pour revenir aussi par rapport au CRA, construire un logiciel, c'est assembler des briques. Et la responsabilité, c'est pas la responsabilité individuelle des briques, c'est vous avez fait cet assemblage, vous en êtes responsable. Et je trouve le CRA là-dessus est correct en disant, mais c'est pas parce que vous avez utilisé 10 briques libres dans votre produit commercial que vous vendez, mais les développeurs de ces briques libres, ils n'ont aucun compte à rendre. C'est pas leur problème. C'est eux, ils ont fait leur travail comme ils voulaient, comme ils pouvaient, avec leurs contraintes. C'est vous qui avez assemblé. C'est vous qui avez décidé de mettre ça et ça comme ça, qui avez validé votre choix à la base. Vous êtes responsable de votre logiciel. Vous êtes responsable de votre travail. Donc, la construction de logiciel, ça a toujours été... Ça fait depuis 40 ans que c'est comme ça que c'est assemblé des éléments. Déjà, enfin 40 ans, allez, peut-être 35, peut-être qu'on va dire que c'est dans les années 80 que ça a commencé à être comme ça, avec la naissance de vrais systèmes d'exploitation notamment. À l'époque de DOS, effectivement, c'était souvent réinventer la roue, même s'il y avait déjà, quand on prenait des applications faites avec certaines solutions, pour les plus anciens, je parle de Turbo Pascal ou ce genre de choses, on réutilisait déjà des tas de briques. Et du coup, on était responsable de l'œuvre dans son ensemble et on pouvait pas dire, on s'était faussé pas en disant ouais, c'est bon, c'est pas moi. On peut pas s'était faussé puisque ceux en dessous ils sont pas responsables de ce que vous avez fait de leur travail. Ils le diffusent en disant ben, on s'engage à le mettre à jour, on respecte les règles, on va signaler les failles de sécurité, mais voilà, après c'est vous qui le paramétrez, c'est vous qui l'installez. Donc gardez bien, faut vraiment garder ça à l'esprit lorsqu'on voit passer les critiques autour du CRA et de ce genre de projet. Et aussi quand on voit passer du coup les idioties de censure de navigateurs web. Parce que clairement, ça va pas dans le bon sens. À l'occasion, je ferai peut-être une déclinaison plus avancée sur la création de logiciels, mais ce sera pour une autre fois et quand j'aurai un peu plus de voix. Du coup, on va se quitter là avant que ma voix ne se barre définitivement. On va du coup se retrouver normalement dans 2 semaines. Je crois que dans 2 semaines, je serai à nouveau tout seul, avec peut-être de la voix. C'est pas sûr. On va essayer. Hein. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, de toute façon. Là, normalement, d'ici quelques instants, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento, toujours sur Radio Campus 106,6, Radio Niais, 13, clanfonfonfonfonfonfon.com, blablabla. Je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye.
Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des guillemets.